Bonjour tout le monde. Non, il n'y a pas d'erreur ici dans l'opération. L'identification, c'est bien celle de la mienne, mon grain. Parce que j'arrive en relève aujourd'hui dû à une situation où Bernard Drainville a été obligé de s'absenter. Mais ce n'est que pour aujourd'hui, je le crois bien. Alors, il me fait plaisir de vous retrouver, mais on se retrouvera évidemment le 25 juin prochain pour la période estivale, bien sûr. Donc, c'est toujours un plaisir de retoucher à ce métier et de le faire avec vous et pour vous également. On va commencer, si vous le voulez bien, avec cette affaire qui a marqué l'opinion publique à travers le Canada. Un autre cas dramatique, c'est-à-dire de ce geste posé par un individu de façon apparemment tout à fait gratuite, mais préméditée, de ce jeune homme d'une vingtaine d'années qui est entré véritablement pour renverser une famille au complet, faisant 5 victimes. Et il y a un enfant de 9 ans qui est orphelin dans cette affaire. Des milliers de personnes se sont rassemblées hier soir à London, en Ontario, et ont évidemment offert leur sympathie, leur solidarité. Mais en même temps, et du même coup, demandent des changements drastiques de la part des autorités afin de pouvoir enrayer cette haine qui nourrit certains individus. On va parler à Maïssa Ferrat, qui est journaliste à la presse à London. Bonjour, Mme Ferrat.
Bonjour, Jean-Luc.
Alors, dites-moi, Maïssa, quelle est la réaction? Comment c'était hier soir? Est-ce qu'on sentait une colère ou purement de la tristesse, de la non-compréhension? Quelle était l'atmosphère?
C'était un peu tout ça, Jean-Luc, je vous dirais. Il y a une tristesse, il y a une colère. C'est un événement inattendu. Les gens sur place, ce qu'ils me disaient, c'est que oui, l'islamophobie à London, en Ontario, mais partout au pays, est tangible. Mais ça ne s'était jamais matérialisé d'une façon aussi violente et aussi gratuite, au point qu'une famille a perdu la vie et finalement qu'un jeune garçon se retrouve comme ça, survivant d'un acte haineux.
Alors, est-ce qu'il y avait des politiciens, évidemment? Parce que généralement, oui, les politiciens, quand ils le peuvent, sont présents. Et moi, je m'interroge toujours, est-ce qu'ils sont vraiment dans la sympathie ou ils sont dans l'opportunisme? Alors, est-ce qu'il y avait des politiciens là qui étaient présents sur place?
Oui, bien sûr. Bien, le premier ministre Justin Trudeau était sur place. Il a même fait un discours. Évidemment, Jack Meeting aussi était là. Erin O'Toole était là. Yves-François Blanchet était là aussi. C'est intéressant que vous mentionniez ça parce que Jack Meeting, dans son discours, en a fait mention que la lutte contre l'islamophobie est sérieuse, mais qu'elle ne devait pas servir à fournir un gain politique. Alors, ça a été vraiment mentionné au cours de la soirée. Il y a eu des discours de l'imam de la mosquée, par exemple, qui mentionnait ça, qui disait que oui, on doit condamner la haine, on doit dire que cet acte-là n'est pas correct, mais il ajoutait aussi qu'il espérait des actions concrètes pour rassurer la communauté, puis pour qu'ils puissent se promener finalement sans regarder par-dessus leur épaule. Là. C'est vraiment... ce sont vraiment ces mots-là.
Il y avait eu, il y a quelques années, à Toronto également... un autre véhicule lancé comme ça contre la foule. Et j'entendais une porte-parole de la ville, une conseillère municipale, je pense, dire qu'il y avait à London une certaine haine ou une islamophobie qui était là, immanente un peu.
Mm-hmm. C'est ce que les gens sur place exprimaient durant leur témoignage. Ils disaient qu'ils n'étaient pas étrangers à toutes sortes de formes de racisme plus pernicieuses, plus subtiles. Mais on sent quand même qu'il y a un avant et un après là, de ce qui s'est passé hier parce que les personnes étaient visées, selon la police, vraiment à cause de leur religion. Mais on parle d'un acte irréversible et particulièrement violent. Donc, les gens... ont toujours senti un peu de l'hostilité de ce qu'ils me disent envers eux. Ça peut être par des... Mm-hmm. De ce qu'ils disaient, ça peut être par des regards, des commentaires, mais ça n'avait jamais, dans leur vie, pris une forme aussi violente. Ce que j'ai entendu aussi de plusieurs porte-parole de la mosquée pendant la vigile, c'est vraiment que maintenant, la haine est présente, selon eux, partout au pays, ça existe. Et surtout qu'il y a énormément de groupes, de commentaires qui se partagent via les réseaux sociaux, vous comprenez? Donc, c'est quelque chose qui peut se transmettre très rapidement, qui fait en sorte que chaque province, chaque ville a un peu cette forme d'intolérance. Mais bien
sûr, alors, les réseaux sociaux sont sans frontières et ne s'attachent pas nécessairement à des réalités territoriales. C'est l'opportunité pour plusieurs de laisser aller leur fiel sur ces réseaux sociaux.
C'est vraiment ce que le monde m'exprimait, en fait, qui sentait, qui lisait de plus en plus de commentaires en ligne, des gens qui se retrouvaient dans certains propos, qui pouvaient vraiment un peu se faire influencer très facilement. C'est des craintes que la communauté musulmane à London ont exprimées hier et qu'ils sentent depuis un certain moment là.
Nos sympathies à la population de London et particulièrement à ce jeune garçon à qui on souhaite d'être soutenu, encadré et adopté, non pas simplement par une famille, mais par la grande famille de sa communauté à London. J'ai bien hâte de voir son avenir. Merci beaucoup, Maïssa.
Merci à vous.
Merci. Le premier ministre du Canada a dit que c'était un meurtre, n'était pas un accident. On en convient. Mais il a été plus loin en disant qu'il s'agissait d'un attentat terroriste motivé par la haine au cœur de nos communautés. Et je sais, c'est sûr qu'un geste comme ça crée la terreur. Mais est-ce qu'on peut le qualifier de geste terroriste dans le palmarès des gestes qui sont posés et revendiqués par des organisations qui sèment la terreur? Il y a ces nuances-là, je pense qu'il faut peut-être faire, en tout cas pour les comprendre. Je vais rejoindre Fabrice de Pierrebourg, qui est journaliste d'enquête, vous le connaissez, un collaborateur ici au 98.5 et un spécialiste de cette question. Bonjour Fabrice.
Bonjour Jean-Luc.
Dites-moi, moi qu'un premier ministre se lève rapidement et dise que c'est un geste terroriste, c'est un geste qui fait peur, c'est un geste inacceptable, c'est un geste haineux. Mais est-ce que le mot terrorisme n'est pas un peu surutilisé et confondu avec des revendications ou encore avec des gens qui disent « oui, nous avons commandé ce geste ».
Ben, c'est sûr qu'on a été habitué, si je peux employer ce mot-là, au cours des dernières années, à des attentats qui étaient ou commandités ou organisés ou
revendiqués.
Oui, par des groupes djihadistes. Donc, en gros, le groupe armé État islamique ou Al-Qaïda. Donc, c'est des groupes qui sont listés comme groupes terroristes au Canada et dans d'autres pays. Donc, c'est sûr que pour la poursuite et pour les enquêtes, c'était plus facile de dire, ben, voyez-vous, l'individu en question a commis tel geste. Soit on l'a vu ici à Ottawa et Saint-Jean-sur-Richelieu en octobre 2014. Il se revendique du groupe armé État islamique qui lui-même revendique ça. Donc, c'est facile de dire c'est un acte terroriste. Pour les cas dont on a affaire, entre autres celui de London, ce qui est assez troublant quand même, c'est que ça en fait plusieurs au Canada qui pourraient, mais moi je suis pas juriste, mais je regarde ça simplement sous l'œil de quelqu'un qui s'intéresse au terrorisme. Quand on regarde la définition de l'acte terrorisme au Canada, l'article 83.01,
oui.
Donc ça parle d'un acte commis au nom ou pas d'un objectif ou d'une cause politique, religieuse ou idéologique, en vue, comme vous le disiez, d'intimider la population, puis il faut qu'il y ait blessure. Dans le cas de l'individu de London, le chef de police lui-même a dit qu'il a parlé de preuves d'une attaque planifiée, préméditée et motivée par la haine. Donc on voit qu'il y a déjà un but derrière ça. Mm-hmm, il n'a pas frappé une famille au hasard dans la rue, il les a choisis. Et puis on n'a pas eu encore la preuve. Hein. On ne sait pas sur quoi se base le chef de police pour dire ça. Mais il les a ciblés en vertu de leur religion. Donc là, on rentre quand même dans un des cas du code criminel. Quand vous faites ça, c'est évident que vous terrifiez la communauté musulmane et donc la population canadienne. Et il y a eu des blessures. Donc techniquement, ça pourrait rentrer dans le code criminel. Mais je sais, puis ça, on nous le répète depuis des années. Puis il y a eu d'autres cas. Vous avez parlé de Toronto. Il y a quand même eu 10 morts à Toronto d'un individu qui était ce qu'on appelle de la mouvance de l'extrême droite. Donc les incels, c'est l'extrême droite au sens large. Il y a eu Alexandre Bissonnette qui n'a pas été non plus considéré comme un terroriste. Il y a eu Justin Bourque à Moncton qui a tué 3 policiers de la GRC. Lui, c'est un anti-gouvernemental, c'est la même mouvance de l'extrême droite. Il n'y a jamais eu d'accusation de terrorisme. À ma grande surprise, à la grande surprise de plein de monde, mais tout le monde disait « Oui, mais c'est compliqué parce qu'ils ne sont pas reliés à un groupe, vous comprenez. On va nous dire effectivement que ce n'est pas revendiqué. Et que c'est plus facile de prouver des accusations de meurtre au premier degré. Mais n'empêche, ça envoie un drôle de message. » Il y a comme une distorsion, quoi.
Dans le cas qui nous occupe, il est peut-être trop tôt, mais est-ce qu'on a eu vent qui a pu, lors d'une enquête qui débute à peine, savoir s'il était justement un jeune homme radicalisé, mais par ses propres activités, admettons, sur des sites, ou s'il se disait appartenir à une mouvance terroriste?
c'est encore prématuré, on ne sait pas ça. Il y a des choses troublantes quand même. On sait que quand il a été arrêté, il portait une veste tactique, donc on voit que c'est quelqu'un qui avait quand même un certain goût, on va dire, pour l'habillement paramilitaire, donc ça peut vous classifier aussi. On a des exemples précédents de tueurs de masse qui étaient habillés comme ça. Il n'y a pas pour l'instant, c'est sûr que ça va être le travail, tout ce qui est sécurité nationale au Canada, hein, terrorisme, oui. C'est une enquête qui tombe sous le coup de la GRC, et puis d'une certaine façon aussi du Service canadien de renseignement de sécurité, c'est eux qui sont habilités à mener ces enquêtes de sécurité nationale.
Fabrice, je comprends le sentiment des gens de dire « ça prend des gestes concrets ». Je vois nos politiciens qui se rendent dans ces manifestations de douleur et tenter de manifester qu'ils peuvent faire quelque chose et qu'il faut faire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on peut faire?
Ben, j'ai le sentiment, et puis là, ça va peut-être un peu éditorial ce que je vais dire, mais ce qu'on entend à chaque fois, là, puis ça a été pareil après la mosquée de Québec, c'est qu'il faut changer. Ça ressemble un peu à ce qu'on dit aux États-Unis après chaque tuerie de masse, puis ça change pas. Il y a un fait quand même, Jean-Luc, c'est que l'extrémisme de droite, alors maintenant on l'appelle aussi l'extrémisme violent à caractère idéologique, parce qu'on dit que c'est beaucoup plus large que la droite, mais c'est toute cette mouvance très large, antisémite, homophobe, xénophobe, suprémaciste, même les complotistes qui rentrent dans cette mouvance. C'est la plus grande menace actuelle en Occident, c'est clair. Il y a maintenant 6 groupes d'extrême droite qui sont listés parmi les groupes terroristes au Canada. Les 4 derniers ont été en février de cette année. C'est dans tous les rapports de renseignement du SRS, même les rapports publics, vous pouvez le voir. Il y a l'année dernière, je pense, c'était le Conseil de sécurité des Nations Unies qui disait qu'on assistait à une hausse de 320% des attaques terroristes menées par des groupes ou des individus rebelles d'extrême droite. 320% au cours des 5 dernières années. C'est énorme. Puis le changement, vraiment, on l'a vu ici au niveau du renseignement et de l'enquête. Ça a été après la tuerie de Christchurch en Nouvelle-Zélande en 2019, là, quand il y a eu près de 50 morts.
Ouais.
Là, il y a eu un réveil. C'est là où on s'est dit, les tueries de masse, là, c'est plus réservé aux djihadistes ou aux Américains, là, des fois, un peu, en tout cas, bref, peu importe leur idéologie, là. Ça peut arriver maintenant avec ce genre d'idéologie violente, raciste, etc. Puis c'est là où ça sonnait une cloche en disant ben, mais c'est pas pour autant que la menace djihadiste est anéantie, là, c'est pas ça.
Non, malheureusement, non, je comprends très bien.
On va se retrouver avec 2 menaces en parallèle et celle-là est beaucoup plus tangible en Occident, quoi, et beaucoup plus difficile parce que moi, ce qu'on me disait souvent quand je parlais avec des gens du renseignement, c'est que c'est un millimélo d'individus qui croient eux-mêmes en un millimélo d'idéologie qui s'entrecroisent.
Alors, c'est difficile de faire quelque. Honnêtement, c'est difficile de faire quelque chose de concret, si ce n'est de peut-être changer la façon de voir l'État et de voir la place des gens dans l'État pour que plusieurs se sentent inclus dans ce que l'on appelle un État.
Oui, et puis moi, souvent les gens, quand vous parlez aux gens de ce milieu-là, l'antiterrorisme et tout, ils sont souvent frustrés quand on parle des difficultés à prouver en cours. Ils disent toujours ben, allons-y en cours. C'est le juge qui tranchera, c'est le jury qui tranchera. Pourquoi on a peur avant? Pourquoi on a peur de déposer des accusations de terrorisme? Est-ce que ça nous gêne parce que ça vient pas justement de Al-Qaïda ou des groupes armés islamiques? C'est endogène.
Excellente question, Fabrice. Merci de tes lumières, ton expertise dans ce domaine, parce que tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir, encore une fois.
Tout à fait. Merci beaucoup.
Merci, Fabrice de Pierrebourg, journaliste d'enquête et collaborateur ici au 98.5. On s'arrête pour une pause. On va parler au retour au Dr Gaston Dessert, qui est médecin épidémiologiste. Est-ce qu'on doit craindre le nouveau variant Delta?